Question politique en direct et jusqu'à 13h, ça commence maintenant. Bonjour et merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question politique, première émission politique du week-end. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je tiens à vous en remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe. Question politique lance sa campagne européenne. Et jusqu'au scrutin du 26 mai prochain, nous vous proposons une série d'émissions spéciales. 2 fois 30 minutes, 2 invités qui se succéderont chaque dimanche dans notre studio. Les principales têtes de liste viendront vous présenter leur vision de l'Europe, défendre les points clés de leur programme. Les 2 invités de cette première émission spéciale Europe, Jean-Christophe Lagarde, tête de liste de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, et Yann Brossa, tête de liste du Parti communiste français. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux, hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Notre premier invité, il se veut aux avant-postes du combat européen. Il se réclame de l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil et de Jean-Louis Borloo. Il ne se reconnaît pas dans la droite François-Xavier Bellamy et il a choisi de mener une liste indépendante aux élections européennes, celle de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour Monsieur Badou.
Et bienvenue pour vous interroger, Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui fera votre portrait, Jean-Christophe Lagarde. Dans un instant, mais d'abord et en quelques phrases, si vous deviez présenter à une jeune Française, un jeune Français, ce qu'est votre idée de l'Europe, que lui diriez-vous, très simplement ?
Je leur dirais 2 choses très rapidement. D'abord, c'est mettre nos intérêts en commun qui a permis d'avoir 75 ans de paix, ce qui n'était pas arrivé au cours des 2000 dernières années de notre histoire. Et deuxième chose, ces intérêts en commun, maintenant, il faut qu'on se mettre en situation de les défendre face aux grandes puissances continentales, aux Chinois, aux Américains, mais également aux grandes puissances financières. Les GAFAM, les BATX et d'autres veulent nous imposer leur intérêt. Et si c'est leur intérêt, c'est que c'est pas le nôtre. Simplement, nous ne construisons pas notre propre puissance. Et s'ils veulent demain ne pas être dépendants, ne pas être colonisés, soit par des sociétés, soit par des puissances continentales, il faut que maintenant, vraiment, on construise l'Europe et qu'on la laisse pas au milieu du gué comme elle est aujourd'hui.
Vous allez dans un instant nous présenter votre liste, l'esprit de cette liste que vous conduisez aux élections européennes. Nous allons nous arrêter sur quelques-uns des points clés de votre programme. Ce sera juste après votre portrait, Jean-Christophe Lagarde, par Karine Bécard.
Jean-Christophe Lagarde, vous avez donc fait le choix d'être candidat, sauf qu'il n'est pas forcément évident de comprendre pourquoi. Jusqu'ici, vous vous êtes toujours montré très intéressé par ce qui se passe à Paris et jamais vous n'aviez fait preuve d'un appétit féroce vis-à-vis de l'Europe. Certes, vous êtes souvent le premier, c'est vrai, à considérer qu'on n'en parle pas assez, mais à 51 ans, Jean-Christophe Lagarde, reconnaissez que c'est loin de Strasbourg que vous avez bâti, a priori, tout votre parcours. Parce que d'abord, il y a eu Drancy, à 33 ans, c'est vous qui décrochez la mairie de cette ville de 70 000 habitants, un bastion communiste resté imprenable pendant 66 ans. Et puis dans la foulée, à 34 ans, vous devenez député, député donc de Seine-Saint-Denis, du 9-3, comme on dit. Ce qui fait de vous, Jean-Christophe Lagarde, un centriste plutôt atypique, pas très notable, pas très monde rural. Non, vous, vous êtes issu de la banlieue, et quand elle s'embrase lors des émeutes de novembre 2005, vous vous faites remarquer parce que cette banlieue, vous la défendez.
Pour un département comme la Seine-Saint-Denis, pardon de le dire, l'État arrive un peu tard. N'imposez pas de couvre-feu là où nous n'en avons pas besoin, sans quoi vous prendriez le risque de raviver les tensions que nous avons pu apaiser.
Alors à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, n'avait pas tellement apprécié. En tout cas, c'était là votre premier mandat à l'Assemblée. Aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, vous en êtes au 4e. Et comme il est interdit désormais de cumuler, ce n'est plus vous officiellement le maire de Drancy, votre épouse vous a succédé. Ce qui n'explique toujours pas pourquoi vous êtes candidat aux élections européennes. Surtout qu'en ayant admiré très jeune Raymond Barre et en ayant été marqué, dites-vous, par Simone Veil, vos références politiques, Jean-Christophe Lagarde, celles de votre parti, l'UDI, sont tout à fait compatibles avec le macronisme. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint cette liste ? Parce qu'en partant seul à 2% pour l'instant, vous prenez un sacré risque.
Réponse Jean-Christophe Lagarde.
Je ne prends pas de risque en défendant mes convictions et mes idées. Je me suis engagé derrière Raymond Barre, c'est vrai, derrière Simone Veil en 1989, pour proposer des choses qu'aujourd'hui nous proposons encore et que les nationalistes, que les populistes nous ont empêchés de réaliser. Je pense par exemple aux gardes-côtes et aux gardes-frontières que nous défendions à l'époque. Et j'ai beaucoup de fierté à poursuivre nos combats avec l'ensemble de ma famille politique. Et pardon, je me suis jeté à corps perdu dans la campagne de 92. J'ai défendu l'Europe tout au long de ma carrière politique, même si c'est pas les sujets, malheureusement, sur lesquels on nous interrogeait. Nous sommes la famille de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'on nous a déjà vu absents de ce combat ?
Vous n'avez jamais été candidat aux élections européennes ?
Non, madame, mais enfin, j'étais pas spécifiquement. D'abord, j'étais pas le patron de mon parti, et je n'avais pas spécifiquement. D'ailleurs, je ne fais pas ça par ambition personnelle pour devenir député européen. Aujourd'hui, je suis député, je suis président d'un groupe, mais pour défendre une conviction. Si on ne transforme pas l'Europe, si on ne la concentre pas, la recentre pas sur quelques sujets stratégiques, elle va disparaître et elle sera rejetée par les peuples. Aujourd'hui, l'Europe, c'est comme je le disais tout à l'heure pour m'adresser à des jeunes, mais à tout le monde, si nous n'avons pas cet instrument, si nous ne nous en servons pas, nous allons subir les intérêts des Chinois, des Américains ou de grandes entreprises. C'est comme ça qu'il faut transformer
mais
l'Europe.
Mais à 2%, on gagne pas. Il faut 5% mais pour madame, réussir
pardon,
à avoir des...
Pardon, d'abord, des si vous considérez que les élections sont déjà passées en fonction des sondages, vous virez Emmanuel Macron de l'Élysée, vous mettez Louis Harris à sa place. Ce sont les élections qui font pour le compte des... Bon. Et deuxièmement, on sait bien que personne aujourd'hui n'est dans l'élection. Moi, j'essaye de porter un message. D'ailleurs, j'essayais déjà, madame, en 2004, de porter le message quand on a élargi l'Union européenne. Je suis le seul député français à avoir voté contre l'élargissement. J'étais pas contre le fait qu'ils viennent, mais je voulais une Europe gouvernable, une Europe qui puisse avancer, une Europe qui puisse effectivement construire sa puissance. Et c'est là qu'a commencé l'impuissance européenne. Notre candidature, c'est pour faire en sorte que l'Europe ne soit plus impuissante, mais qu'elle nous soit vraiment utile.
Alors, est-ce que philosophiquement, vous continuez à défendre l'idée d'une Europe fédérale alors qu'au fond, ceux qui ont aujourd'hui le vent en poupe, ce sont des souverainistes ?
Non, Jean-Christophe Lagarde. On a un débat en France entre fédéral, confédéral, etc. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Là où l'Europe est légitime, c'est quand elle nous permet de réaliser ensemble ce que nos pays ne sont pas assez puissants pour faire tout seuls. Quand on parle de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est évidemment pas que français. Lorsqu'on veut réglementer, je propose qu'on puisse donner un droit de propriété aux Européens sur leurs données informatiques pour que les GAFA, les BATX, nous rémunèrent quand ils les utilisent et font des milliards avec. On ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. L'Europe n'est pas légitime quand, pardon de le dire, elle pourrit la vie des gens. On demande aux poissonniers de mettre le nom en latin du poisson sur leur étal. Ça n'a aucun intérêt. Monsieur Juncker n'a pas eu d'autre urgence que
sauf
de s'occuper
pour la défense de la langue latine.
Pardon, oui, d'accord, mais vous comprenez bien que c'est pas l'enjeu. Monsieur Juncker n'a pas eu d'autre priorité à la rentrée que de s'occuper de l'heure d'été. Mais on s'en fout de l'heure d'été. On n'a pas réuni 450 millions d'Européens. Je retranche les Britanniques, pour ça, mais pour faire en sorte que quand Monsieur Trump veut démolir l'Europe pour nous imposer ses intérêts, on soit capable d'imposer les nôtres. Quand Monsieur le président chinois veut racheter la dette grecque, c'est bien pour nous démolir, pour nous imposer, parce que séparés, nous sommes... D'ailleurs, nous avons, et c'est quand même un élément central du débat politique, nous avons l'exemple sous nos yeux de ce que veut dire la sortie de l'Europe. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan et même Monsieur Wauquiez à l'époque, ils étaient bien contents du Brexit, ils applaudissaient, même certains parlaient du Frexit. Bon, et aujourd'hui, ils se cachent. Ils disent non, on veut plus sortir de l'Europe, on veut sortir des traités. Mensonge. L'Europe, c'est pas un État, c'est un traité. Si vous sortez du traité, vous sortez de l'Europe. Ils prennent les Français pour pardon, pour des imbéciles. Or, il suffit de regarder le Royaume-Uni, 67 millions d'habitants comme nous, la même puissance économique que nous, la même puissance militaire que nous, la même puissance diplomatique que nous, et ils sont seuls, nus, isolés comme des vers face au monde. Eh bien, il faut absolument, pour le compte, qu'on puisse construire une Europe, mais qu'une Europe qui ne soit pas qu'un marché, parce qu'on s'est arrêté au marché. Et l'objectif de l'Europe, c'est pas un marché. C'est une puissance qui rend nos nations plus fortes.
Avant de donner la parole à Jeff Wittenberg, un mot pour nous présenter votre liste et nous expliquer pourquoi voter pour la liste que vous présentez, celle de l'UDI, plutôt que celle de La République En Marche, puisque peu de choses vous distinguent. En l'occurrence, on a vu Jean Veil, le fils de Simone Veil, se présenter, même si c'est sur une place non éligible, avec la liste de la majorité présidentielle. Chez vous, c'est Louis Giscard d'Estaing qui se présente en troisième position.
En position éligible.
Voilà.
Mais attendez, pardon. D'abord,
vous distinguer.
Je vous inviterai à arrêter de répéter que nous n'avons pas de différence de projet, parce que si on avait eu le même projet, ou plus exactement s'il y avait eu un projet chez M. Macron, nous aurions pu faire liste avec lui. Mais il n'y a pas de projet. Pardon, quand on
quand il y a un discours de la Sorbonne, il y a forcément et la tribune.
Eh bien, le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes sont des beaux discours. Le projet, où est-il? Le SMIC européen, c'est de la poudre de perlimpinpin.
La création d'une
banque
climat.
Le SMIC européen, laissez
Jean-Christophe Lagarde répondre.
Sinon, ça sert à rien. Le SMIC européen, non seulement c'est de la poudre de perlimpinpin, mais en plus je dis que l'Europe n'est pas légitime à imposer aux pays un SMIC. Est-ce que je peux juste vous prendre une comparaison? Est-ce que le modèle suédois, le modèle social suédois, est pire que le modèle français?
Ils n'ont pas de SMIC national.
Il y a même des gens qui pensent qu'il est meilleur. Ils n'ont pas de SMIC national. Et ils ont, eux, 6% de chômeurs quand nous on en a 9. Ils ont un jeune sur 12 au chômage quand nous on en a 1 sur 5. Ils ont 38% de dette quand nous on a 2300 milliards de dette, 100% de notre PIB. Faut quand même qu'à un moment donné, on arrête de donner des leçons aux autres. Dans la lettre de M. Macron, deux choses m'ont choqué. Un, son histoire d'observatoire sur
la démocratie.
C'est la France qui vit la pire crise de démocratie. Il vaut peut-être mieux
donner des leçons.
Deuxième chose, c'était deux jours après le salon de l'agriculture. Il n'y a pas un mot sur l'agriculture, alors que c'est 30% du budget européen, et que c'est la France qui est la principale bénéficiaire, et que la Commission veut réduire le budget agricole quand moi je veux l'augmenter.
Jeff Pittenberg.
Monsieur Lagarde, je vous ai lu et je vous ai écouté sur votre programme. Il y a un sujet sur lequel vous êtes très allant, très actif, c'est la protection des frontières extérieures de l'Europe, et vous dites que vous réclamez depuis des années une police, des gardes-côtes, et que si on l'avait fait, il n'y aurait pas, je vous cite, de morts et de réfugiés débarquant sur les plages. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous pensez que ceux qui veulent à tout prix fuir les pays où il y a des guerres, où il y a des catastrophes climatique, eh bien, serait arrêté par un super Frontex.
Monsieur Wittenberg, non seulement je le crois, mais je le démontre. Monsieur Salvini prétend avoir arrêté les migrations clandestines dans son pays. C'est pas vrai. C'est Frontex, 600 personnes missionnées par l'Europe pour protéger les frontières, qui ont permis de réduire de 95% les arrivées de bateaux qui étaient de gens victimes de trafiquants d'êtres humains, 6 mois avant que Monsieur Salvini ne soit
au pouvoir. Donc c'est suffisamment dissuasif.
Non, on a besoin, pour le compte, d'avoir... Nous avons décidé de supprimer nos frontières en interne. On a donc besoin d'avoir des frontières externes que nous n'avons pas construites. C'est celle-là qui manque. Et j'hallucine d'ailleurs quand j'entends Monsieur Wauquiez et son candidat expliquer qu'on va faire une double frontière, parce que j'ai posé la question dans le débat qu'on a eu entre les candidats. J'ai dit, mais est-ce que vous mettez, Monsieur Bellamy, vous remettez des frontières entre l'Allemagne et la France sur le pont de Kiel à Strasbourg? Il dit non. Alors, deux solutions. Soit... il n'y aura pas de double frontière et ils mentent aux gens en disant qu'ils vont en rétablir une. Il y a des endroits qui seront protégés et puis sur le pont de Kiel. Alors dans ces cas-là, c'est prendre les clandestins et les terroristes pour des imbéciles, parce que figurez-vous qu'eux, ils passeront là où il n'y aura pas de douaniers.
Françoise Fressoze.
Dans votre esprit, est-ce qu'il faut déléguer toute la politique migratoire à l'Europe, ou est-ce que les États membres restent encore souveraine sur cette matière-là?
Le principe que je propose est simple. Chaque pays définit qui il a besoin d'accueillir, qui il souhaite et qui il peut accueillir.
Vous êtes pour des quotas.
C'est-à-dire, bien évidemment, ça fait 15 ans que nous militons pour ça. Chaque pays est souverain et surtout n'a pas les mêmes besoins. Les Allemands ont énormément de besoins de populations étrangères pour venir travailler, remplacer leurs retraités, leurs futurs retraités. Ce n'est pas le cas de l'Italie, c'est pas notre cas, etc. Donc, première chose, chacun décide. Ensuite, c'est l'Europe qui délivre les visas en respectant la volonté des nations. Et nous avons des gardes-côtes et des gardes-frontières ensemble. Il y a un dernier volet que je veux aborder. Alors d'abord, ce système-là, il fonctionne très bien. Il existe. Par exemple, le Canada, là, depuis toujours. Deuxième chose, il y a un deuxième volet. C'est que si vous voulez,
le Canada n'est pas épargné par
les flux migratoires. Je voulais répondre à Monsieur Wittenberg. La vérité, c'est que si vous voulez éviter que des gens fuient leur pays parce qu'ils meurent de faim, c'est là-bas qu'il faut s'en occuper. Et donc, nous proposons, nous, qu'on investisse massivement dans le développement de l'Afrique en faisant observer que nous sommes les seuls voisins du continent africain. En 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains. Si on laisse ce continent s'effondrer, ils vont pas partir en Chine, ils vont pas partir aux États-Unis. C'est évidemment nous qui serons, puisque nous sommes les seuls voisins. Soit on aura 2,5 milliards de migrants potentiels, soit 2,5 milliards de clients. Je préfère 2,5 milliards de clients, mais il faut s'y investir maintenant.
Karine Bécart.
Alors, pour le coup, c'est sur ce point-là exactement ce que dit La République En Marche. Et vous souhaitez même, je suis surprise que vous n'utilisiez pas le mot, un ministère, je crois, pour les migrants. Sur ce sujet-là.
Oui, mais vous appelez ça,
toujours
que vous
un
appeliez ça.
Européen.
Écoutez,
des migrants.
Je disais tout à l'heure que le président de la Commission, c'est en fait le Premier ministre de l'Europe. Bon, on ne dit pas les choses avec leurs mots. Que ce soit un ministère, une agence, etc.
Ça a le mérite de la clarté.
Mais c'est quoi un commissaire? C'est un ministre. C'est un ministre de l'Europe, il ne faut pas raconter des histoires aux gens.
Donc vous voulez un commissaire européen chargé
de l'Europe. Bien sûr, qu'il y ait un commissaire qui soit chargé d'appliquer ce que les pays ont décidé et de faire en sorte que nous ayons tous la même règle Aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas.
Sachant alors, que les politiques d'immigration restent largement de la compétence des États.
Karine, alors, la question exclusivement, pas largement, exclusivement, les politiques de migration. Il y a une grande escroquerie depuis plusieurs mois. On dit l'Europe a échoué dans l'affaire des migrants. Elle peut pas échouer. Personne ne lui a donné la responsabilité. Mm-hmm. Moi, je propose qu'on donne la responsabilité de garder les frontières, qu'on donne à chaque État la responsabilité de dire qui il peut accueillir et que l'Europe délivre les visas en respectant les volontés des États.
Alors, la question que je voulais poser plus précisément, c'était plutôt avancer sur le programme écologique. Vous dites pas grand-chose dans votre projet pour l'instant encore sur l'écologie. Vous dites l'économie doit être soucieuse de l'écologie. Ce qui signifie quel type de mesures très concrètement en fait.
Je vous invite vraiment, j'invite tout le monde à aller voir sur le site Les Européens pour voir le programme parce qu'il me semble que vous avez
un livret environnemental européen, voilà. La lutte contre le plastique.
Attendez, première chose. Nous sommes le continent qui a le plus intérêt à lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes le plus petit des continents et le plus tempéré. Donc, c'est l'Europe qui doit prendre la tête de la croisade et pas attendre que les autres se bougent. Nous avons même une capacité de prescription, c'est-à-dire en fonction de ce que nous achetons, 1700 milliards d'importations sur notre continent, d'obliger les autres à respecter un certain nombre de normes.
Donc, c'est ne vrai... plus importer de produits alimentaires fabriqués avec des produits interdits en Europe, par exemple.
Exactement. Vous avez 300 molécules qui sont interdites pour les produits alimentaires, mais on importe des produits qui sont fabriqués avec ces molécules. Je ne veux plus de ça. Le livret E, si je peux me permettre. C'est mobiliser l'épargne populaire sur le modèle du livret A, qui finance le logement social. C'est permettre à tous les Européens, en plaçant leur épargne, de verdir le continent. Le continent plastique dont personne ne se préoccupe, on en parle comme ça. Il va bien falloir qu'à un moment donné, des puissances décident, et je propose que l'Union Européenne le fasse, de s'attaquer à ce sujet qui est en train de dégrader la chaîne alimentaire maritime et la reproduction des poissons. C'est quand même un sujet grave.
Mais que faire d'ailleurs?
Ne dites pas qu'on n'en parle pas.
Parce que vous parlez justement de ce continent plastique. Alors, on comprend qu'il faille remplacer le plastique dès qu'on le peut par des matériaux biodégradables, mais comment est-ce que vous comptez lutter contre ce 7e, 6e, 8e continent plastique?
Est-ce que vous savez qu'en France, on jette un camion poubelle par jour de plastique dans la mer? L'équivalent. Bon, la première des choses, c'est d'arrêter d'en produire, d'arrêter et qu'on soit le premier continent sans plastique. Comme je propose d'ailleurs qu'on soit les leaders du moteur à hydrogène. On a eu il n'y a pas très longtemps une marée noire dans le golfe de Gascogne, mais le premier bateau à hydrogène autonome est français. Est-ce qu'on décide que dans 15 ans ou dans 20 ans, tous les bateaux qui accostent dans les ports européens sont des bateaux à hydrogène?
Oui, mais il y a un changement de mentalité en fait à faire. Et donc, comment le politique peut l'accompagner? Vous dites, voilà, il y a trop de plastique. Mais comment on freine la production de plastique? Comment on habitue les gens à organiser leur vie différemment?
Par exemple, en Belgique, il y a des consignes à verre comme il y en avait en France quand j'étais enfant. On n'avait pas de bouteilles en plastique, on avait des bouteilles en verre. Ils recyclent 95% de leur verre, on recycle à peine 55% de notre verre. Passons au verre quand on a besoin de ça. Quand vous avez des gobelets en plastique à peu près partout, ils peuvent parfaitement être en carton, etc. Ça, ce sont des règles qu'on doit se fixer, des objectifs, même si on met des dates qui permettent la mutation de l'industrie.
Françoise Fressoze.
Vous dites que l'élargissement de l'Europe a paralysé la construction européenne. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le fonctionnement de l'Europe pour qu'on ait l'impression que ça fonctionne?
Alors, la première des choses, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le président de la Commission soit élu par les députés. Parce qu'il n'est pas normal que le peuple ne puisse pas atteindre ceux qui dirigent l'Europe. Le peuple français, s'il n'est pas content de la gestion de l'Europe, il ne peut pas envoyer des députés pour renverser le président de la Commission européenne, en tout cas pour en choisir un autre.
Aujourd'hui, sa nomination est tellement compliquée que c'est impossible à expliquer facilement.
Système simple, il y a 705 députés européens qui élisent le président de la Commission, le Premier ministre de l'Europe. Comme ça, ça permet au moins que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre fin à la règle de l'unanimité, sauf pour trois choses.
L'unanimité, c'est-à-dire que tous les États membres doivent voter la même chose pour que ça progresse.
Ça veut dire que le dernier de la classe ralentit les autres. Même s'il est tout seul. Il vaut mieux faire des choses bien à 4, à 6, à 8 que de ne rien faire à 27. Et donc la fin de l'unanimité, moi je dis
donc
simplement...
Donc plus de droit de veto.
Il y a trois domaines seulement, la politique étrangère et de sécurité commune, le droit des citoyens, je ne veux pas par exemple que l'Europe demain impose la GPA, ça pourrait arriver dans une majorité, etc. Et la troisième chose, c'est l'adhésion d'un nouveau membre. Si tu fais partie de la famille, par nature, tu dois être accepté par tout le monde.
Ça veut dire, monsieur Lagarde, l'adoption d'un nouveau traité européen.
Oui,
vous disiez tout à l'heure que vous dénonciez ceux qui veulent déchirer ceux d'aujourd'hui. Si un nouveau traité, on fait comment? On fait un référendum au niveau du continent? Ce sont les parlements qui le votent? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une défiance des peuples européens envers les institutions. Donc, vous pensez que ça va la renforcer si on institue un nouveau traité européen?
Je suis sûr d'une chose, c'est une des différences avec la liste de madame Loiseau et monsieur Macron. Si on ne change pas les traités, l'Europe mourra.
Mais comment faire ?
Parce qu'elle
comment
passe son temps à rater les enjeux les plus essentiels et les plus stratégiques, et donc il faut le faire. Comment faire ? Exactement à l'inverse de ce qu'a fait M. Macron. Il a commencé à donner des leçons à tout le monde dans l'Union européenne, voire à donner des bons ou des mauvais points. Madame Loiseau explique qu'il ne faut plus construire d'autoroutes en Slovaquie, qu'on va priver d'argent tel ou tel. Alors que, et on ne s'en souvient pas, et c'est pour ça que je milite pour qu'on ait un nouveau Jacques Delors à la tête de l'Union européenne. Dans les années 80, l'Europe était en panne. Et Jacques Delors l'a sorti en créant des projets fédérateurs. J'en propose quelques-uns.
Attendez, avant de parler des projets, vous voyez, est-ce que vous voyez une personnalité qui pourrait incarner...
Le nouveau Jacques Delors, c'est
qui ? J'aimerais que ce soit le Parlement européen qui l'élise. Et moi, je trouve, par exemple, que Michel Barnier pourrait être un remarquable président de la Commission européenne. Mais comme je n'aurais pas mon mot à dire une fois élu député européen, ou plus exactement, je pourrais dire non. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent au milieu de la nuit, ils finissent par choisir quelqu'un, celui qui les dérangera le moins, et les députés ont le droit de le rejeter, mais pas de choisir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si vous, on vous disait, voilà la personne qui va être élue, vous avez le droit de dire non, mais vous n'avez pas le droit de dire oui, vous ne seriez pas très contente, c'est pas de la démocratie. Je propose d'inverser la façon dont M. Macron... cherche à faire avancer l'Europe. Parce qu'il est en train de s'isoler tellement que, du coup, la France n'y parvient plus. Je vous donne 2-3 exemples. Premier exemple, je propose la fin des contributions nationales, c'est-à-dire que le chèque que chaque pays fait au budget européen, qu'on le remplace comme à ses origines, comme Jean Monnet le disait d'ailleurs lui-même, qu'on le remplace par des contributions extérieures. C'est la taxe carbone sur nos importations, c'est faire payer l'Europe par des pays extérieurs à l'Europe. C'est une taxe sur les transactions financières, c'est quand même logique et personne... On était coincé par les Britanniques, ils s'en vont. C'est maintenant qu'il faut le faire.
Peut-être.
C'est une redevance aussi sur les visas.
Ça rapporte quoi tout ça ?
115 milliards. C'est-à-dire exactement ce qu'aujourd'hui nos pays. Et à la France, ça permet d'économiser 91 milliards. Mais surtout, ça permet une chose, Madame Fressoz. Ça permet d'éviter l'égoïsme national. Parce que tout le monde regarde combien il donne et il attend la même chose. L'an prochain, il y aura des élections municipales. Vous regardez que vous payez 2000 euros de taxes pour la commune tous les ans. Et vous allez élire le maire en fonction de savoir s'il met les 2000 euros dans votre rue ? Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'on n'a pas de stratégie industrielle commune. C'est comme ça qu'on n'a pas la recherche sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez que Google met 15 milliards de dollars sur la table pour la recherche sur l'intelligence artificielle cette année ? Nos 27 pays séparés, divisés, non coordonnés n'en mettent que 8. Nous allons être largués. Mais parce que chacun regarde son petit bout de gras, au lieu de construire ensemble la puissance dont on a besoin. Les autres sont en train de nous dépasser à cause de ça.
Vous avez des propositions d'ailleurs qui sont assez surprenantes. En tout cas, vous voulez par exemple rendre obligatoire le stockage des données personnelles européennes de citoyens européens sur des serveurs physiquement situés en Europe.
Je vous remercie. Pourquoi ça ? Je vous remercie de souligner au fur et à mesure de l'émission toutes les différences que j'ai avec le projet de M. Macron.
Où siégerez-vous ? On en parlera juste après.
Mais posez-leur la question. Moi, je suis membre de l'ALDE. EPA.
L'Alliance des démocrates et libéraux européens.
Pour l'instant, il n'y a pas de députés sortants. Il y a toutes les chances qu'ils rejoignent effectivement ce groupe.
Il n'y a pas de députés sortants. Jean Arthuis, c'est quoi ? Monsieur Riquet, c'est quoi ? Monsieur Riquet, Dominique Riquet, il est membre aussi, etc. Bon, alors faut pas raconter des histoires. Je dis simplement une chose. Aujourd'hui, ils ne savent pas où ils veulent aller, tout simplement parce qu'ils veulent faire un nouveau groupe.
Mais
ils
vous siégerez peut-être ensemble.
Ils ont refusé de travailler avec le groupe dans lequel je serai. Je peux terminer quand même, puisque vous m'avez posé une question. Pourquoi il faut avoir une loi européenne sur justement les données ? La première raison... c'est que stocker en Europe, c'est une question de souveraineté qui vous permet. Je remarque que l'Inde le fait, la Chine le fait, je ne vois pas en quoi, pourquoi nous sommes des naïfs à ce point-là. Deuxième chose, donner à chaque Européen un droit de propriété sur ses données, puisqu'aujourd'hui, les GAFA, les BATX vendent vos données, c'est-à-dire vous, ce que vous avez fait sur Internet ce matin, hier,
bien
etc.
Bien sûr, les nôtres, les vôtres, celles de l'UDI.
Mais moi, j'ai rien contre le fait qu'ils les vendent. Mais s'ils les vendent, ils vous payent pour ça. Pardon, je n'ai pas encore entendu M. Macron le dire. Quand je parle du livret E, lui, il parle d'une banque. Moi, je veux de l'épargne populaire. Je veux pas m'occuper que des banquiers. Bon, vous voyez, il y a des différences.
Bon, il n'est pas candidat aux élections européennes.
Non, au fond, je crois que Mme Loiseau n'est que sa porte-parole, quand même. J'espère, en tout cas, parce que sinon, je me demande comment elle aurait été désignée. Pour revenir à ça, très sincèrement, au fond, notre liste, elle est à la fois profondément européenne et bien plus ambitieuse que le non-programme présenté par La République En Marche. Mais je vais aller au bout. C'est la chance pour tous les Français, et ils sont des millions, qui veulent voter pour l'Europe, qui n'ont pas envie de voter pour les frexiteurs cachés, de pouvoir
les
voter...
Les frexiteurs cachés, l'expression est assez jolie, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, c'est tous ceux qui disent qu'il faut sortir des traités et qui en réalité veulent sortir de l'Europe. Mais pour revenir là-dessus, Moi, je cherche à rassembler les héritiers de la droite française européenne, du centre européen évidemment, et y compris les orphelins de Jacques Delors, leur permettre de voter pour une liste qui est vraiment pour l'Europe, et en même temps, c'est un nouvel en même temps, ne pas cautionner la politique de M. Macron.
Très peu de temps.
Il y a beaucoup de gens qui sont embêtés en se disant « je suis obligé de voter pour Macron et d'approuver ce qu'il a fait », parce que le soir de l'élection, qu'est-ce que vont dire ses représentants? Que c'était un soutien au président de la République. En votant pour nous, vous votez pour l'Europe, sans avoir besoin de voter pour le président de la République.
Il reste vraiment très peu de temps.
Vous défendez une vision, mais vous allez être élu, si votre liste fait le score qu'il faut, député européen. Sur quoi vous vous engagez à pousser pendant votre mandat? Quel sujet concret vous pouvez porter et faire aboutir si vous devenez député européen?
Sur la totalité de mon programme, et je vais vous donner deux choses.
Oui,
d'abord, l'augmentation du budget de la PAC de 6 milliards, puisqu'on a les 6 milliards du chèque britannique et que ça ne coûte rien et qu'on a besoin que l'alimentation progresse.
Ils sont pas partis, les Britanniques, quand même. Vous en parlez toujours comme si c'était parti.
Tant dans le respect des, de la transition environnementale que de la santé. Il faudrait faire un lien entre l'agriculture et les aliments, quand même, dans notre tête à tous. Et on a besoin, pour le compte, d'investir dans ce domaine-là.
Deuxième combat.
Et la deuxième chose, je disais, c'est le droit de propriété face aux GAFA. Je pense que l'Europe, elle est légitime quand elle nous donne de la force face à des puissances, parfois des puissances étrangères, d'autres fois des puissances économiques. Et je ne vois pas quelle chef de gouvernement ou quel parti européen refusera qu'on paye les citoyens pour utiliser les données qu'ils donnent aujourd'hui sur Internet.
Il reste 30 secondes.
C'est une question à laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre par oui ou par non. Vous êtes actuellement député du Parlement français. Est-ce à dire que si vous êtes élu le 26 mai, vous quittez votre siège au Palais Bourbon? Vous êtes un député.
Mais bien évidemment, c'est la loi.
C'est la loi. Donc vous choisirez l'Europe.
Mais j'ai choisi en étant candidat aux élections européennes d'aller siéger. Et d'ailleurs parce que c'est ce qui permet d'aller chercher quelques commissaires européens qui ne font pas le boulot, de proposer des changements profonds dans l'Europe. Nous ne nous résignons pas, nous, à voir l'Europe mourir faute de la changer. Il faut vraiment la changer. Il faut que les Français se réveillent entre guillemets sur ce sujet parce que, pour paraphraser Jacques Chirac, ce sera ma conclusion. La maison est en train de brûler et nous sommes en train de regarder sur les ronds-points. C'est pas sur les ronds-points qu'on réglera le problème. Et si on construit pas une véritable puissance, on subira les intérêts des autres. Moi, je veux rester indépendant.
Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été notre invité. Bonne campagne à suivre dans Questions politiques. Rendez-vous avec la tête de liste du Parti communiste français, Yann Brossa.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Question politique spéciale Europe, deuxième partie, toujours avec Jeff Wittenberg de France Télévisions, Françoise Fressoz du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Notre invité jusqu'à 13h, à lui de faire la preuve que le PCF is back. L'expression est en anglais et du secrétaire national du Parti communiste. Il mène une liste de combats contre l'Europe libérale et nationaliste et une liste autonome. Il ne croit pas à l'unité de la gauche, en tout cas pas avant le 26 mai prochain. Il dit qu'il ira jusqu'au bout au nom de l'identité du Parti communiste.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Yann Brossa.
Bonjour.
Et bienvenue en quelques phrases, si vous deviez présenter votre idée de l'Europe à un jeune Français, une jeune Française, que lui diriez-vous ?
Moi, je dirais que l'Europe était au départ une belle idée. On nous a dit c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la démocratie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas la paix, on a la guerre économique, on n'a pas la prospérité, on a 87 millions de pauvres. On n'a pas la démocratie, on a le pouvoir des lobbies. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, si l'Europe ne répond pas à ses promesses de départ, c'est parce qu'elle est malade du libéralisme. Et donc il nous faut enfin arrimer l'Union européenne à un projet qui soit un projet de progrès social. Je pense que c'est ce qui peut sauver l'Europe.
Et vous allez justement nous présenter les points clés de ce projet et de ce programme. Ce sera juste après votre portrait. D'abord, votre portrait.
Dans le bon sens.
Yann Brossa, signé Karine Bécard.
Yann Brossa, Bonjour d'abord.
Bonjour.
Lors du premier débat, votre passage à la télé a été plutôt remarqué. Sur le fond, vos arguments sont apparus rodés. Et sur la forme, vos attaques se sont révélées redoutablement ciselées. Alors serez-vous la révélation de ces élections européennes? Ce serait tout de même un peu vite oublié que vous faites de la politique depuis maintenant de longues années. Depuis 22 ans, précisément, quand vous adhérez au Parti communiste, oui, vous avez 17 ans. À 28, vous êtes élu conseiller de Paris, époque Bertrand Delanoë. À 34, lors du mandat suivant, Anne Hidalgo, faites-vous ce que vous êtes encore aujourd'hui, son adjointe au logement. Sans oublier qu'à 3 reprises déjà, vous avez été candidat, Yann Brossat, à des élections législatives. Donc les batailles électorales, les batailles politiques ne vous effraient absolument pas. Et vous aimez peut-être plus encore la bataille idéologique. Embêter les bourgeois, en suggérant notamment l'installation à Paris d'un camp rom dans le 16e arrondissement.
On a besoin que la solidarité soit équitablement partagée à l'échelle des territoires, et donc oui, notamment dans le 16e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement de Paris, et le 2e moins densément peuplé.
Ce vœu que vous avez exprimé d'installer un camp rom remonte au 15 octobre 2013. Depuis, la majorité parisienne à laquelle vous appartenez a imposé un centre de SDF et plus récemment un centre pour migrants toujours dans ce 16e arrondissement. En réalité, ces combats, ce sont ceux de toute la famille Brossat. Vos parents sont des intellectuels, des universitaires qui ont toujours milité à la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR. Et vous avez suivi le même chemin. Vous êtes un normalien, agrégé de lettres, qui avait adhéré à la jeunesse communiste à 13 ans seulement, quand vous étiez à peine adolescent. Avec eux, vous partagez probablement, Yann Brossat, la même radicalité, mais vous ne rechignez pas, vous éventuellement, à infléchir votre tactique si c'est pour réussir une bonne opération politique.
Réaction, Yann Brossat.
Bon, j'entends ce que vous dites. Oui, je suis engagé depuis longtemps. Je suis un garçon fidèle et loyal. J'ai adhéré au Parti communiste
depuis
effectivement un peu plus de 20 ans. C'est pas une question de tactique politique. Moi, je fais de la politique parce que j'ai envie de changer la vie. Et c'est peut-être la différence par rapport à mes parents qui ont eu un engagement finalement très théorique. Moi, j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis. Et ce qui me rend heureux, c'est quand je croise une famille qui me dit, grâce à votre politique en matière de logement, mon môme, il a une chambre pour faire ses devoirs et il peut jouer. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Et c'est ça qui me donne envie de me battre.
Avant de donner la parole à Françoise Fressoz, un mot pour nous présenter l'esprit de votre liste, non pas tous ceux qui y figurent, mais l'Europe des gens, pas l'Europe de l'argent. C'est le slogan. Qu'est-ce qui anime cette liste que vous présentez aux Européennes ?
C'est très simple. C'est la seule liste qui est composée à 50% d'ouvriers et d'employés, c'est-à-dire la proportion exacte qui existe dans la société française. Aujourd'hui, dans notre société, il y a 50% d'ouvriers et d'employés. Et quand vous regardez le Parlement européen, vous vous apercevez qu'il y a en tout et pour tout, sur 751 eurodéputés, 3 ouvriers. Eh bien, nous avons fait le choix d'avoir une ouvrière en position éligible, Marie-Hélène Bourlard. Elle est 2e sur ma liste et ce sera la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen depuis 30 ans. Il y en a une il y a 30 ans.
Que tous ceux qui ont vu le documentaire de
François Ruffin,
François Ruffin, merci patron, connaissent, puisque c'est l'une des ouvrières textiles qui apparaît dans ce documentaire.
Elle est en numéro 2 sur ma liste et je pense que ce serait beau de faire l'histoire et de permettre qu'une ouvrière entre au Parlement européen après 30 ans d'absence.
Françoise Fressoz.
Je voulais un peu approfondir votre vision de l'Europe. Vous dites il faut combattre le libéralisme. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui ne serait pas libérale ? Quelle vertu elle aurait ? Et comment est-ce que vous arrivez à la faire émerger ? Sur quelle force vous vous appuyez ?
Yann Brossat.
Simplement, 2 chiffres, si vous me permettez. Depuis 10 ans, le produit intérieur brut de l'Union européenne est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Et pendant la même période, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7% à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Union européenne ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir un travail qui paye. Eh bien moi, par exemple, je suis favorable à l'harmonisation sociale par le haut. Je suis favorable à un SMIC européen qui serait à 60% du salaire moyen, ce qui permettrait d'avoir en France un SMIC à 1400 euros net. Absolument, de chaque pays. Donc oui, moi je suis favorable à l'harmonisation sociale et je ne veux plus de cette Europe qui en permanence nous tire vers le bas, nous aspire vers le bas, alors que sa promesse de départ, c'était de nous tirer vers le haut.
Pourquoi un salaire minimum alors qu'il y a 6 pays, par exemple, et qui ne sont pas les plus mal lotis, en l'occurrence, qui n'en ont pas ? L'Autriche, le Danemark, la Suède, la Finlande, et je pourrais rajouter l'Italie et Chypre, ce sont des cas un peu particuliers. Mais du coup, pourquoi vouloir imposer un salaire minimum à des pays qui s'en passent très bien ?
On va pas se mentir, le problème, ce sont pas ces pays-là. Le problème, ce sont l'ensemble des pays de l'Est qu'on a intégrés à l'Union européenne dans le cadre d'un élargissement qui s'est fait sans harmonisation sociale. Et lorsqu'on fait entrer au sein de l'Union européenne des pays dans lesquels le SMIC est à 200, 300 ou 400 euros dans une Union européenne où la seule règle qu'on applique, c'est la règle de la concurrence libre et non faussée, inévitablement, ça tire tout le monde vers le bas. Donc maintenant qu'on a élargi, la question, c'est comment on harmonise socialement et on en finit avec cette logique absurde de dumping social.
Sur ce point-là, au moins vous êtes d'accord avec la candidate de La République En Marche, Nathalie Loiseau, qui veut aussi instaurer un SMIC européen.
Mais Jeff Wittenberg, le diable se niche dans les détails. Vous avez vu la proposition qu'elle a faite. Elle propose un SMIC à 50% du salaire médian, ce qui signifierait en France, même si j'ai bien entendu qu'elle ne dit pas cela, mais enfin, si on fait le calcul, ça ramènerait le SMIC français à 900 euros.
Le diable se cache dans les détails, là en l'occurrence ça n'en est pas un. Vous êtes candidat donc pour devenir député européen.
Absolument.
La question du salaire minimum, ça relève d'une compétence nationale.
Mais est-ce qu'on se bat à l'échelle de l'Union européenne pour imposer de nouvelles logiques? Si les députés européens ne servent strictement à rien, ça
ne
sert à
rien d'organiser de votre compétence.
Mais c'est une bataille qu'il faut mener et les députés européens peuvent mener des batailles. Par ailleurs, je vais vous prendre un exemple.
Oui, mais à condition d'avoir des alliés. Et en fait, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est bien beau de faire des projets, mais comment concrètement changer alors qu'on voit bien que la gauche européenne est quand même en difficulté et qu'aujourd'hui, les grandes forces, ce sont soit les progressistes mode Macron, soit de l'extrême droite. Donc comment vous luttez-vous?
D'abord, nous avons des alliés à l'échelle européenne. Le Parti communiste a un groupe au Parlement européen qui est composé de 52 membres. C'est la gauche unitaire européenne. Je souhaite d'ailleurs qu'elle sorte renforcée de ces élections européennes. Mais surtout, quand on regarde les votes dans le détail, on s'aperçoit que sur toute une série de sujets, on n'était pas loin de gagner une majorité. Je vais vous prendre un exemple simple. Le quatrième paquet ferroviaire, celui qui a abouti à la loi sur la SNCF et à la libéralisation du transport de voyageurs. Il est passé à 24 voix près. C'est-à-dire que si nous avions été un peu plus nombreux au Parlement européen, même au départ minoritaire avec 52 membres, nous arrivons à mener des batailles. Donc ce que je dis à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il se décide beaucoup de choses au Parlement européen, parce que les directives, elles sont soumises au vote des députés européens. Et deuxièmement, même à 52, en étant convaincant et en travaillant avec le mouvement social, on arrive à gagner des voix supplémentaires au sein du Parlement européen.
Karen Becker, puis Jeff Wittenberg.
Alors, ce qu'on entend effectivement quand vous vous exprimez, c'est une Europe sociale que vous voulez, clairement, mais est-ce qu'on peut la définir un peu plus? Parce que quand on lit votre programme, on vous trouve aussi, je trouve, assez souverainiste, en fait, et presque eurosceptique. Donc, quelle est véritablement votre définition de l'Europe?
Je dirais que je suis alter-européen. Cette Europe-là ne me va pas, et je pense qu'il nous faut aujourd'hui changer d'Europe. Mais je le pense d'autant plus qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, d'ailleurs, moi je fais partie d'une génération pour laquelle l'Union européenne était une espèce d'évidence. Aujourd'hui, l'Union européenne traverse une crise existentielle comme elle n'en a jamais connue. Donc tout le monde a aujourd'hui conscience que soit l'Europe change profondément, soit l'Europe mourra. Et donc la question qui se pose à notre génération, c'est bien comment nous faisons en sorte que cette Europe-là soit autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. Vous me dites souverainiste. Je ne me définirais pas comme ça. En revanche, je suis attaché à la souveraineté populaire. Je vais vous donner un exemple. La France, c'est une nation qui s'est bâtie singulièrement depuis 45 en développant des services publics, un secteur public puissant, des entreprises publiques qui disposaient d'un monopole dans un certain nombre de secteurs, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécoms. Là-dessus, l'Union européenne est intervenue en nous disant « il faut mettre en concurrence, il faut libéraliser ». Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Dans le secteur du fret ferroviaire, par exemple, depuis la libéralisation, il y a deux fois moins de marchandises qui circulent par le train en France. Donc ce que je dis, c'est que l'Union européenne doit accepter qu'en son sein, il puisse y avoir des modèles économiques différents. Laissez-nous respirer. Nous, les Français, nous avons mis en place des services publics. Ça donnait satisfaction. Ça marchait bien. Ben, laissez-nous le faire.
On va parler maintenant de votre programme et de quelques points clés. Jeff Wittenberg, puis Françoise Fressoz.
Alors, vous souhaitez rompre notamment avec les traités européens et notamment avec la règle des 3% de déficit public, de la concurrence libre et non faussée. Ce sont, par exemple, des positions que défendent les gouvernants allemands, l'Europe de Madame Merkel, qui est souvent fustigée, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce aussi votre cas? Est-ce que vous dénoncer une Europe qui obéit à Mme Merkel? Et puis, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, on n'a pas la paix, on a la guerre économique. Mais vous pensez que pour ceux qui ont connu la guerre tout court, c'est la même chose, la guerre économique et la guerre? Est-ce que ça, l'Europe n'a pas protégé tout de même de la guerre?
Je vais essayer de répondre à vos deux questions. D'abord, c'est trop facile de taper sur l'Allemagne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est, sur le plan économique, sur les mêmes positions que Mme Merkel. Ce sont des libéraux. Et en réalité, son programme, c'est le même que celui de Monsieur Juncker.
Parle de votre
c'est
programme,
le même que celui de Madame Merkel. Moi, ce que je pense profondément.
Sortir des traités européens.
Oui, bien sûr, je dis qu'il faut s'affranchir des traités européens. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, comme les Portugais, qui ont maintenant un gouvernement de gauche, ont décidé, contre les recommandations de l'Union européenne, d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, et leur économie s'en porte mieux. La règle des 3%, bien sûr, c'est une absurdité totale.
D'ailleurs, qui a été votée par référendum en France. Il faut rappeler que ça date du référendum de Maastricht, c'est que ça a été adopté
tout
donc par une majorité
et
des
oui,
électeurs français.
Une petite majorité, et à l'époque, d'ailleurs, majorité. Les communistes
si on parle
ont, eu raison,
là,
ont eu raison de s'y opposer.
Majorité.
Oui, mais enfin, la deuxième fois qu'on a posé la question aux Français au moment du traité constitutionnel européen, à une majorité plus forte encore, ils s'y sont opposés et ils ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de cette Europe libérale. Donc ce que je dis, oui, c'est qu'il faut s'affranchir de ces règles absurdes. Ben oui, mais enfin, le vote de 2005...
C'est exactement ce que vous reprochez justement à ceux qui vous disent le vote de 2005 s'est décidé à quelques mois près.
Il y a eu un vote en 1992 aussi. Bien, en 2005, il y a eu un vote et ce vote a été massif.
Ne soyez pas de mauvaise foi, Yann Brossard.
Je ne suis jamais de mauvaise foi.
Ah, là, vous l'êtes particulièrement.
Ce qui est honteux, c'est qu'on n'ait pas tenu compte du vote des Français en 2005
et
que Nicolas Sarkozy ait validé ce traité par la voie parlementaire. Non, je dis qu'en 1992, ils avaient tranché. Leur vote a d'ailleurs été respecté. Non, mais attendez, ce qui est fou, c'est que quand ils disent qu'ils correspondent à la doxa libérale, on tient compte de leur avis. Et quand ils disent non, on ne tient plus compte de leur avis. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie. J'en finis. Oui, il faut s'affranchir de cette règle des 3%. D'ailleurs, aucun économiste n'est capable de nous dire pourquoi c'est 3%, pourquoi c'est pas 4, pourquoi c'est pas 5. Et d'ailleurs, je vois que même des gens qui ne sont pas de grands révolutionnaires comme Nicolas Hulot, au moment où il est sorti du gouvernement, a dit « Il faut sortir du calcul des 3% les dépenses qui visent à réaliser des investissements pour la transition énergétique. » Donc oui, je dis que ce serait salvateur de se sortir de ces règles absurdes.
Françoise Fressoze.
Je voudrais vous entendre sur le Brexit, parce qu'au fond, vous dites « Je suis pour refaire les traités, mais pas sortir de l'Europe. » Les Britanniques ont voté pour sortir de l'Europe. Est-ce que vous approuvez leur choix et comment vous jugez la situation actuelle où, au fond, on ne sait pas du tout ce qui va se passer ?
Yann Brossard.
Il y a deux questions différentes, si vous me permettez de raffiner un peu. Est-ce que j'aurais fait le même choix ? Non. Et moi, en tout cas, je ne suis pas favorable. Le même choix que les Britanniques. Moi, je ne suis pas favorable. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union européenne.
Bon, est-ce qu'il faut... Vous êtes français.
Il y a une deuxième question. Est-ce qu'il faut respecter le vote des Britanniques ? Oui, mais ce sont deux questions différentes. Vous êtes bien d'accord avec moi.
Enfin, la première est parfaitement théorique, puisque vous n'êtes pas britannique, donc on ne vous a jamais posé la question.
Non, mais
vous avez voulu raffiner, mais c'est une fiction politique.
Mais vous auriez le droit de me demander si je suis favorable à une sortie de l'Union européenne.
Oui.
Je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union européenne, donc je préfère le dire. Je suis favorable à une transformation de l'Union européenne. Donc oui, il faut respecter le vote des Britanniques. Il ne faut pas les faire revoter. Il faut respecter leur vote. Il ne faut pas les punir de leur vote. Et donc moi, je suis favorable, je serai favorable à ce qu'on arrive à un deal avec les Britanniques.
On vote donc pour des députés au Parlement européen. En lisant votre projet, Yann Brossard, celui que vous portez et que porte votre liste, il y a la sortie de l'OTAN, la rupture avec l'OTAN. Alors, bon, ce n'est pas de la compétence du Parlement européen, mais expliquez-nous pourquoi sortir de l'OTAN.
Mais parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on nous raconte une petite musique, d'ailleurs Emmanuel Macron nous raconte cette petite musique, qui consiste à nous dire on va créer une défense européenne qui nous permettra de gagner une forme d'autonomie par rapport aux États-Unis. Je dis que c'est un mensonge dès lors que nous restons dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, ça date de la guerre froide. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. Donc je ne vois pas pourquoi nous resterions accrochés à l'OTAN.
Mais alors, ça
voilà la raison pour laquelle je le dis.
Pour une armée européenne extrêmement puissante, donc mettre des milliards d'euros dans la
pas
construction.
Du tout. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a une arnaque dans l'argumentation qu'on nous défend. Non, moi je suis favorable à l'indépendance de la France, à la sortie du commandement intégré de l'OTAN, comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle en son temps, et je suis favorable à une baisse des dépenses militaires. D'ailleurs,
puisque vous parlez du général de Gaulle, c'est assez curieux de voir un communiste se réclamer du général de Gaulle.
Nous avons gouverné le pays ensemble et nous avons créé la sécurité sociale.
Et vous avez, avec le général de Gaulle, enfin les communistes à l'époque, vous êtes opposé à la création d'une Europe de la défense en 1954. Donc vous êtes toujours.
Mais j'y suis toujours opposé. Et d'ailleurs, je constate une chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous demande à tous les pays d'Europe de consacrer 2% de notre produit intérieur brut aux dépenses militaires. Ça, c'est quand même formidable. Le seul objectif de dépenses que nous fixe l'Union européenne, ce sont des dépenses militaires. Ils nous demandent de rogner sur nos dépenses de santé, de rogner sur nos dépenses d'éducation, mais alors en matière militaire, il faut y consacrer 2% de notre PIB.
Parce que excusez-moi, vous considérez qu'il n'y a pas de danger sur la scène internationale,
excusez-moi,
ou sur la scène
ça
de
ne
la
me fait pas rêver,
par exemple.
Cette course aux armements et cette relance mais de la course aux armements,
pas tous en même temps.
Cette course aux armements, ça n'est pas le projet de société que je défends pour
comme
l'Europe,
gaulliste.
Et je pense au contraire, comme communiste, et je pense au contraire que nous devons nous battre pour la paix, et on ne construit pas la paix en relançant la course aux armements.
Alors, faut avancer. La question de la politique de l'immigration également, vous en faites état assez largement dans votre programme. Juste avant vous, il y avait Jean-Christophe Lagarde qui parlait d'un ministère européen des migrants, en tout cas d'un commissaire aux migrations. Est-ce que vous seriez favorable, vous, de votre côté, à cette initiative ?
Ça dépend pour porter quelle politique. Ça dépend pour porter quelle politique. Moi, je sais ce que je veux. Je sais quelle conception je défends.
Dans le contexte aujourd'hui, vu la crise à laquelle l'Europe doit faire face, est-ce qu'il serait nécessaire aujourd'hui qu'il y ait un commissaire à l'immigration ?
Je n'en sais sincèrement rien. Si l'idée, c'est d'avoir un commissaire aux migrants qui passe son temps à ériger des frontières partout, comme le fait l'Union européenne aujourd'hui, qui est incapable d'organiser l'accueil digne pour ceux qui cherchent un refuge chez nous, ça ne sert à rien.
Alors,
la question, c'est
seriez...
quel est le fond de la politique qu'on mène en matière de migration, quel est le fond de la politique qu'on mène pour accueillir dignement les réfugiés dans
notre
pays, comme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Deux choses. D'abord, j'estime qu'il faut des voies légales de migration, c'est-à-dire qu'il faut priver les passeurs de leur marché. S'il y a des passeurs, c'est parce qu'il n'y a pas de voie légale de migration. Vous avez des gens qui viennent en France, qui obtiennent l'asile et qui sont arrivés en France dans des conditions d'illégalité. Donc, voie légale de migration. Et deuxièmement, je suis favorable à une clé de répartition des réfugiés à l'échelle européenne, c'est-à-dire que tous les pays doivent être mis à contribution, et nous ne pouvons pas continuer à nous retrouver avec des pays comme la Pologne, qui touche 12 milliards d'euros de l'Union européenne, et qui, dans le même temps, disent aux pays du Sud, débrouillez-vous
et
tout seul avec les migrants.
Puisque vous êtes attaché à la souveraineté nationale, si l'immigration est de la compétence des États, ce qui est le cas aujourd'hui, comment empêcher les Polonais, les Hongrois, le groupe de Visegrad, par exemple, pour le dire rapidement, d'accueillir leur solidarité, quota de réfugiés?
La solidarité, ça marche dans les deux sens. Donc dès lors qu'ils touchent la Pologne 12 milliards d'euros par an, leur devoir, au même titre que les autres pays d'Europe, c'est d'organiser l'accueil. J'insiste sur un point. Je dis il faut accueillir. Je ne dis pas il faut accueillir n'importe comment. Je dis il faut organiser l'accueil. Parce que le constat que je fais aussi, comme adjoint en charge du logement à Paris, c'est que lorsqu'on organise l'accueil, c'est-à-dire que lorsqu'on permet à des gens d'avoir un toit sur la tête, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des cours d'alphabétisation, à des soins, les choses se passent bien. J'étais encore à Ivry où nous avons ouvert un centre d'hébergement pour les familles. Ça se passe bien parce que l'accueil a été organisé. Ce qui ne marche pas, c'est quand on ne fait rien et qu'on se retrouve avec des gens qui se retrouvent dans nos rues.
Jeff Wittenberg.
Alors, il y a un volet écologique important aussi dans votre programme. Et puis, il y a une petite histoire, si j'ose dire. Vous avez dénoncé des personnalités qui prennent l'avion et qui envoient des messages comme quoi il faut respecter l'environnement. Et puis, vous-même, des internautes ont décelé que vous-même, vous aviez pris l'avion pour prendre des vacances. Donc, on a dit, finalement, c'est deux poids, deux mesures. Alors, quelle est la réalité ? Vous dites, il ne faut plus prendre l'avion ou vous continuez à le prendre vous-même ?
Jeff Wittenberg. Je l'avoue, j'ai déjà pris l'avion dans ma vie. Et lorsque j'ai rencontré le maire de New York pour échanger sur l'encadrement des loyers, je n'y suis pas allé à la nage.
Ceux qui le prennent.
Simplement, je dirais deux choses. D'abord, oui, je trouve honteux que lorsqu'on parle d'écologie, on pointe du doigt l'ouvrier qui utilise son vieux diesel et dans le même temps, on ne taxe pas le kérosène. C'est absurde parce qu'on le sait très bien, le kérosène est beaucoup plus polluant que ne l'est le vieux diesel utilisé par l'ouvrier qui se rend en voiture à son usine. Donc deux choses, il y a des trajets qui sont courts et qui peuvent être effectués en train. Paris-Lyon en avion, c'est débile, ça prend plus de temps, c'est plus polluant. Ces trajets-là devraient être interdit dès lors qu'on peut les réaliser en train en moins de 2 heures. D'ailleurs, j'ai noté que le Parlement des Pays-Bas a interdit les trajets entre Amsterdam et Bruxelles. Ça a été fait par
et
les
donc,
Pays-Bas. Ça devrait pouvoir être fait en France.
Les parlementaires européens devraient pouvoir interdire un certain nombre de liaisons aériennes au sein même des pays de l'Union.
Qui peuvent être réalisées en moins de 2 heures en train. Et puis deuxièmement, il y a des trajets qui sont plus longs. Paris-New York, c'est effectivement plus long. Sur ces trajets-là, je pense effectivement qu'il faudrait taxer le kérosène comme de nombreuses
donc
personnes l'ont proposé.
Donc faire augmenter les billets d'avion de façon aussi importante et donc priver certaines personnes de
prendre l'avion. On n'est pas forcé d'en faire exploser le prix. Simplement, ce que je vous dis, c'est que je préfère qu'on finance la transition énergétique en taxant l'avion qu'en taxant le vieux diesel de l'ouvrier.
François Fressoz, puis Karine Becker.
Vous contestez le libre-échange. Est-ce que l'Europe doit devenir une vaste zone protectionniste ?
Je ne dirais pas les choses ainsi. Ce que je sais, en revanche, c'est que je ne suis pas favorable à ce qu'on multiplie les traités de libre-échange. Il y a en ce moment une dizaine de traités de libre-échange qui sont en cours de négociation. Et je suis, par exemple, favorable à ce qu'il y ait une exception agricole et alimentaire dans les traités de libre-échange. C'est-à-dire que les produits agricoles ne devraient plus être intégrés à ces traités de libre-échange. Mon rêve, ça n'est pas de manger du mouton élevé, plus exactement, en Nouvelle-Zélande. Je pense que ça n'est pas ça l'objectif objectifs que nous devons nous fixer à nous et à nos enfants.
Il faut sortir du marché unique, il faut rompre l'idée d'un marché unique européen.
Je pense qu'il faut des visas.
C'est un espace de libre-échange.
Je pense qu'il faut des visas à l'entrée de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que les produits qui viennent chez nous sont fabriqués dans de bonnes conditions sociales et environnementales, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, et ce qui expose par ailleurs nos agriculteurs, par exemple, à une forme de concurrence tout à fait déloyale.
Karine Becker.
Alors, au Parlement européen, vous siégez actuellement, les communistes, dans le même groupe que la France insoumise. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cause commune?
Ah, c'est une bonne question. Je crois que ça ne dépend pas que de nous, puisque comme vous le savez, pour faire alliance, il faut être deux. La France insoumise a de fait décidé de tracer son propre chemin, et elle a décidé très tôt d'avoir sa propre liste aux élections européennes.
Vous aussi, vous êtes partie plus très tôt.
Plutôt que nous, et je sais que vous êtes une fine observatrice de la vie politique, donc vous le savez. Ce que je sais, en revanche, c'est que dans cette campagne... Moi, je ne veux pas multiplier les bisbilles entre formations politiques de gauche. Nous sommes déjà suffisamment en difficulté
à
gauche.
Vous le faites en permanence, en fait.
Je ne le fais pas et je ne l'ai pas fait depuis le début de cette émission. Moi, je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas avoir un mot de travers pour des gens avec lesquels, de toute façon, après le 26 mai, il va bien falloir que nous retravaillions
ensemble.
C'est ça le
paradoxe, c'est que vous siégerez peut-être le 26 mai au soir ou le 27 mai, en l'occurrence, dans le même groupe au Parlement européen. En revanche, ici, en France... Pourquoi n'arrivez-vous pas à dialoguer ou à faire programme ou combat commun?
Ce groupe, les communistes l'ont construit dès les années 80. Donc c'est notre groupe, c'est le groupe dans lequel nous siégeons depuis longtemps. Et comme nous sommes des gens partageurs et accueillants, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui veulent siéger avec nous.
C'est juste pour
dans
que nos
groupe.
Électeurs et nos auditeurs comprennent, en l'occurrence, vous siégez ensemble au Parlement européen, mais impossible de vous entendre ici en France. Françoise, puis Jeff.
Vous êtes quand même dans une perspective d'affaiblissement global de la gauche en Europe. Est-ce que vous ne dites pas, au fond, on est en train de participer au naufrage au lieu d'essayer de faire du renouveau parce qu'on est trop divisé, on ne s'entend plus, on ne se parle plus?
Mais soyons honnêtes, les élections européennes, ce sont des élections à la proportionnelle. Ce sont des élections qui, c'est d'ailleurs la seule élection nationale maintenant, qui est à la proportionnelle. Donc disons-le aussi, ce mode de scrutin ne facilite pas le rassemblement. Moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas insulter l'avenir. Et je sais que au lendemain des élections européennes, il va bien falloir que la gauche, toute la gauche, trouve
toute
les moyens
gauche,
de se reparler.
France Insoumise, vous et le reste de la
bien,
gauche.
Il faudra bien qu'on se reparle. Si on a envie qu'un jour, la gauche regagne le pouvoir à l'échelle nationale, il va bien falloir se reparler. Donc ne comptez pas sur moi pour dire un mot de travers sur des gens avec lesquels, de toute façon, je souhaite qu'on puisse retravailler demain. Après, je sais une chose en revanche. C'est que le Parti communiste, il n'a voté aucun des traités européens libéraux qui nous font aujourd'hui tant souffrir. Aucun. Ni le traité de Maastricht, ni le traité constitutionnel européen. Donc nous avons pour nous dans cette campagne une
constance...
C'est
une manière de dire que Jean-Luc Mélenchon, lui, ayant
c'est
soutenu
c'est vous qui le dites, c'est pas moi.
Sûr.
Une constance,
non, Brossa,
une, constance
Brossa,
une cohérence, une sincérité.
Un peu de clarté pour ceux qui nous écoutent, qu'on comprenne. En l'occurrence, on va pas mettre des sous-titres sur ce que vous dites ou essayer de deviner vos intentions cachées.
Le Parti communiste a eu raison avant les autres sur ce sujet. Parce que nous constatons tous les jours à quel point ces traités européens, à coup de concurrence libre et non faussée, à coup de politique d'austérité, nous font mal. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, faites confiance.
Et souvenez-vous que Jean-Luc Mélenchon, lui, était pour Maastricht en 92.
Faites confiance à ceux qui, sur ce sujet, n'ont jamais flanché, jamais menti et jamais trahi, en l'occurrence les communistes.
Alors, parmi les têtes de liste de ces élections, il y a Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, vous-même et Manon Aubry, quatre hommes et une femme pour représenter la gauche française. Est-ce que vous trouvez que c'est très moderne? Est-ce que ça donne une bonne image, finalement, de ce qu'est aujourd'hui la vie politique à gauche? Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas une réalité électorale, les derniers résultats, qui font que c'est vous qui auriez dû peut-être rejoindre la liste France Insoumise et pas l'inverse?
Non.
Yann Brossard.
Il y a un parti communiste qui a 50 000 adhérents à jour de cotisation. Je fais des salles pleines tous les jours. Et donc, je vous le dis, mon travail, le travail de la nouvelle direction du Parti communiste, c'est de faire en sorte qu'on puisse à nouveau compter sur ce parti-là. Et moi, je pense que nous vivrions mieux en France avec un parti communiste qui gagnerait en influence. Et nous avons par ailleurs, je le répète, une très belle liste, la seule liste qui est à l'image de la société française.
Et tous ces hommes pour une seule femme.
Et moi, je veux que cette liste-là, elle puisse faire rentrer le maximum de gens au Parlement européen demain, parce que nous défendrons ceux qui ont besoin de nous.
Françoise Fressos, il reste une minute.
On voit sur la scène européenne se profiler deux coalitions, celle des progressistes et puis celle de l'extrême droite. Vous, Où est votre place et qui soutenez-vous ?
Yann Brossard. Moi, je défends la gauche et je pense qu'il n'y a rien de pire que cette fausse alternative qu'on essaye de nous vendre, dans laquelle il y a les libéraux d'une part et les fachos d'autre part. Ceux qui nous écoutent, j'imagine aussi, ne souhaitent pas que la vie politique, à l'échelle de la France comme à l'échelle européenne, soit l'otage de cette division qui est une fausse division qui ne nous amène rien
Mais
de bon.
Mais vous savez bien qu'au Parlement européen, ce sont souvent des votes en fonction des textes. Est-ce qu'à un moment, vous pouvez dire « je voterai avec la République en marche » ?
Je voterai avec la gauche et je veux que la gauche retrouve de la force en France et en Europe et on s'en portera mieux.
L'émission se termine. Merci Yann Brossat d'avoir été notre invité. Bonne campagne. Merci à Alexandre Gilardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et demain matin pour le 7-9 d'Inter avec Alexandra Ben Saïd. Merci de nous avoir suivis.